Salut, c'est Véronique Jung, experte SEO à l'international, et je suis en featuring avec Botify pour ce podcast Let's Talk SEO.
Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Paul Pernez sur cet épisode où on va expliquer pourquoi choisir ses mots-clés correctement permet d'accélérer le référencement de son site web. Paul, est-ce que tu pourrais te présenter et nous dire quels sont tes conseils pour accélérer le référencement d'un site grâce à une bonne étude de mots-clés?
Oui, évidemment. Bonjour Véronique. Donc je suis Paul Pernez, je suis search data stratégiste, c'est-à-dire expert SEO chez Botify. Et Botify est une entreprise qui met à disposition des sites internet une solution software qui permet d'analyser des sites internet dans le but d'optimiser le SEO et donc la visibilité organique sur Google. Alors concernant le choix des mots-clés, c'est effectivement un sujet pilier fondamental pour tout développement en fait de la visibilité d'un site sur internet, puisqu'en fait le mot-clé c'est ce qui va permettre en fait à Google de pouvoir identifier le sujet, la thématique d'un contenu et d'un site en général, en vue de le positionner sur des requêtes qui sont tapées par les utilisateurs de Google. Et tout l'intérêt ici, en fait, va consister à articuler le discours en fait que vous voulez mettre en place, donc que ce soit un discours commercial, par exemple dans le but voilà, de vendre des biens ou des services, ou tout simplement dans le but en fait de simplement générer de la visibilité, et de façon à ce que ce discours-là que vous mettez en place soit en fait en accord et en concordance avec les requêtes des utilisateurs que vous voulez viser donc à un moment précis dans leur utilisation en fait de Google.
Complètement. Et selon toi, les requêtes des internautes, c'est finalement un peu le reflet de leur pensée, de ce qu'ils recherchent en termes de sémantique.
C'est exactement ça. En fait, il y a plusieurs façons en fait de catégoriser en fait les intentions de recherche, puisqu'en fait on a observé de façon assez récurrente qu'il y a des patterns employés par les utilisateurs pour donc exprimer une pensée, pour exprimer un besoin en fait, pour trouver une information qu'ils recherchent. Et en fait, on peut globalement en fait répartir ces mots-clés donc en quatre groupes, donc selon leurs intentions. On a par exemple donc les mots-clés informationnels. Donc là en fait, ce sont des internautes qui recherchent donc une réponse. Donc par exemple à une question spécifique ou veulent avoir des informations générales. On peut avoir aussi des mots-clés navigationnels où par exemple des utilisateurs veulent trouver par exemple un site internet tout simplement, ils veulent trouver une page spécifique sur un site. On a aussi les mots-clés commerciaux où là par exemple des utilisateurs peuvent donc taper par exemple une marque ou un service en rapport avec cette marque, enfin quelque chose en rapport avec un site. Et veulent justement obtenir des informations sur cette marque, sur ses biens, sur ses services en général. Et la dernière catégorie, c'est donc les mots-clés transactionnels, où là, très clairement, les utilisateurs, donc les internautes, en fait, tapent donc un besoin dans l'optique en fait, de procéder à un achat. Et ça, c'est tout particulièrement important, en fait, notamment pour les sites internet qui font du e-commerce, de bien identifier en fait, ces mots-clés-là, puisque ici, l'intention est donc bien d'acheter et que donc si votre site internet se positionne dans les premières positions dans les résultats de recherche obtenus par l'utilisateur donc par rapport à sa requête, eh bien il y a de fortes chances que l'utilisateur en fait se dirige vers le site internet situé donc en haut des classements et donc procède potentiellement donc à un achat sur le site internet en question.
Ok, et est-ce que tu aurais un exemple concret ou une étude de cas à partager avec notre audience?
Alors, effectivement, j'en ai un en tête. Donc, c'est un client dont je ne citerai pas le nom, évidemment, mais qui est donc dans le pharmaceutique et qui donc, vend des produits donc, pharmaceutiques, parapharmaceutiques. Et il a été confronté en fait, à une problématique, c'est que c'est aujourd'hui un site qui est très bien optimisé pour le SEO, il génère énormément de trafic. Et le problème, c'est qu'il a du mal en fait, à comprendre en fait le fait que beaucoup d'utilisateurs en fait viennent sur son site donc consultent ses contenus mais ne vont pas forcément en fait acheter des produits sur son site. En fait ils viennent simplement sur son site pour donc consulter les produits, obtenir des informations puisqu'on parle du secteur pharmaceutique et que les informations sont peut-être très importantes avant l'achat, puisqu'en fait en général un site internet de ce type là va peut-être parfois jouer un peu le rôle en fait du pharmacien en fait hein, en vue vraiment d'orienter la personne dans l'achat du bon produit, en tout cas du bon médicament. Et donc, bah, ce client en fait, avait constaté qu'un grand utilisateur arrivait sur son site, mais ne procédait pas forcément à un achat des produits qu'il vendait. Et en fait, c'est simplement donc, en utilisant en fait, certains outils connus sur le marché, donc du SEO, donc notamment l'outil en fait, SEMrush, qui va justement nous a indiqué en fait, que la plupart des mots-clés sur lesquels le site internet de ce client donc, se positionnait étaient en fait, des mots-clés de type informationnel. Et donc, l'intention de recherche de ces gens-là était basée sur l'obtention d'informations et pas nécessairement sur la transaction, enfin l'achat de produits. Et donc, l'idée ici a été déjà de donner l'information à ce client pour qu'il prenne conscience de ce fait que, bah, que son site internet, en fait, certes, se positionnait très bien, mais sur des requêtes qui ne donnaient pas visibilité en fait, à des utilisateurs dont l'intention de recherche était l'achat. Et donc, du coup, bah, l'une des décisions en fait, qui a été prise par ce client a été justement de bah, désormais et de réorienter en fait, l'écriture, la rédaction en fait, des contenus sur son site de façon à ce que elles intègrent davantage cette dimension transactionnelle, cette dimension d'achat, pour que justement bah, Google eh bien, positionne mieux le site internet de ce client sur les requêtes justement de nature transactionnelle.
Super intéressant. Et est-ce que dans cette stratégie, vous avez créé des nouvelles landing pages justement pour répondre à certaines requêtes, ou est-ce que c'est surtout du refresh content,
Ce sera plutôt
c'est-à-dire le
de...
rafraîchissement de contenu?
Oui, exactement. Ça a été plutôt ça. Et aussi, évidemment, de veiller à ce que justement, on utilise en fait de façon plus récurrente en fait, certains schémas de recherche correspondant donc à cette grande famille donc, des mots-clés transactionnels. Notamment donc, en utilisant des termes comme par exemple prix, comme achat, ce genre de choses, qu'on va disséminer un peu partout dans le contenu de la page, qu'on va mettre même rendre présent en fait, à travers d'autres contenus. De façon à ce que Google en fait, associe bien justement ces contenus-là avec cette intention vraiment transactionnelle. C'est un équilibre en fait, qui est assez subtil en fait, à respecter, puisque le client en question, donc, qui est dans la pharmaceutique, a des obligations, a des contraintes d'un point de vue information donc, à délivrer à l'utilisateur, mais en même temps, il doit aussi prendre en compte que bah, Google, si souhaite en tout cas se rendre visible aux personnes qui souhaitent acheter des produits, eh bien, doit adopter un ton un peu plus commercial et moins, on va dire, conseillé.
Parlant justement de transactions et de revenus pour le coup, qu'est-ce que tu répondrais à un client qui te demanderait en fait de maximiser son chiffre d'affaires avec le SEO? Est-ce que c'est possible? Parce que bon, on sait que le SEO, ce n'est pas non plus le levier qui va tout de suite ramener un gain de revenu immédiat comme pourrait faire le SEA. Comment est-ce que tu répondrais à une problématique comme celle-ci?
Oui, non, mais c'est une très bonne question. Avant même d'y répondre, je ferai peut-être une petite parenthèse sur la partie SEA, où effectivement, il y a souvent en fait, cette dimension de ROI en fait, qui est facile, enfin beaucoup plus simple à mesurer en SEA qu'en SEO. Et à partir du moment où justement on est capable en fait, de déterminer un coût d'investissement, on est capable aussi derrière bah, de déterminer en fait, le revenu qui peut être généré à travers les campagnes SEA. Donc en soi, le canal payant est hyper intéressant. Cela étant, ça n'empêche pas non plus qu'il faille aussi analyser justement les mots-clés sur lesquels bah, Google peut positionner un site internet. Et parfois, il peut y avoir des surprises dans le sens que, mettons, si vous avez un site internet qui donc vend des produits et que Google vous positionne, parce qu'à travers des campagnes automatisées, vous positionne sur des requêtes dont l'intention de recherche est plutôt informationnelle. Alors certes, vous aurez beaucoup de clics. Cela étant, le taux de transformation risque d'être très faible puisque les gens tapant ces requêtes-là et arrivant sur votre site, eh bien, déjà, enfin, vous aurez payé en fait, pour obtenir ces utilisateurs sur votre site, mais vous n'êtes pas du tout certain en fait, que ces personnes-là vont ensuite transformer en fait, leur visite en comportement d'achat. Donc ça, c'est vraiment cette étude vraiment des mots-clés est absolument fondamentale puisqu'elle va vraiment permettre en fait, de comprendre vraiment la subtilité qu'il peut y avoir donc, entre plusieurs mots-clés. Et on sait que la variété en fait, des mots-clés est telle que on peut vite être confronté donc à un très grand nombre et qu'il est important vraiment de procéder à cette fameuse étude sémantique pour détecter un maximum de mots-clés qui, chacun d'eux, en fait, pouvant se retrouver en fait, à un moment dans le comportement, enfin plutôt dans le parcours en fait, d'achat d'un utilisateur. Puisqu'en fait, c'est En fait, il faut s'imaginer en fait, le SEO comme étant pas seulement en fait, un outil permettant de maximiser vraiment le positionnement en fait, d'un site internet, mais aussi comme étant un moyen en fait, de se rendre visible aux différentes étapes en fait, d'un utilisateur dans son parcours d'achat. Autrement dit, en fait, quand vous avez un utilisateur qui se trouve en fait, aux portes vraiment de procéder à un achat de produit et celui où il est encore en phase de recherche d'obtention d'informations, il peut se passer beaucoup de temps et en fait cette séparation en fait est constituée en fait de plusieurs jalons où en fait l'utilisateur en fait va au gré de ses recherches, au gré de ses connaissances en fait qui s'accumulent avec les recherches qu'il effectue, et bien il va pouvoir en fait affiner en fait ses recherches, et c'est vraiment à ce moment-là en fait qu'Instagram peut justement maximiser en tout cas sa visibilité, en tout cas se rendre pertinent et présent dans l'esprit de l'utilisateur pour devenir vraiment l'expert en fait dans le besoin qu'exprime en fait un utilisateur. Et à ce titre justement, ça peut être intéressant de procéder vraiment à une analyse presque comportementale en fait des utilisateurs pour comprendre en fait à quel niveau est-ce qu'une marque ou un site internet eh bien peut adresser en fait un contenu qui correspond aux besoins d'information d'un utilisateur. Donc que ça soit en fait par exemple un consommateur, un décideur ou quelqu'un qui est davantage prescripteur, eh bien, il serait intéressant justement de faire cette part. Enfin, ce croisement vraiment entre les personas marketing et les différentes requêtes qu'on peut classer donc à travers ces quatre grandes familles, c'est-à-dire donc informationnel, commercial, transactionnel, etc.
Ok, très bien, très très intéressant. Justement, par rapport aux mots-clés pour mesurer leur pertinence, est-ce que tu as des conseils à nous donner? Par exemple, est-ce que tu vas regarder le CTR, la position? Peut-être quelle data est-ce que tu regarderais, toi?
Effectivement, je regarderais c'est des KPI comme tu viens de citer, Véronique, donc le CTR, donc le taux de clic, qui est donc la différence entre le clic et le nombre de vues, en fait, que fait un lien lorsqu'il est présent dans une page de recherche de Google. On va regarder ici, évidemment, donc la position en fait, d'Instagram sur ce mot-clé. Et surtout, ce qui va compter, c'est ça reste encore en fait le volume de recherche en fait d'un mot-clé. C'est-à-dire qu'un mot-clé oui. qui génère énormément de clics, enfin que beaucoup d'utilisateurs en fait tapent de façon régulière, sera un mot-clé extrêmement convoité par tout un ensemble de sites. Et par conséquent, ce sera un mot-clé sur lequel il y aura beaucoup de concurrence. Donc ça, c'est vraiment, c'est aussi d'ailleurs une autre façon aussi de catégoriser de façon différente encore les mots-clés. C'est là, en fait, on va faire le distinguo entre la courte traîne et la longue traîne. Donc, la courte traîne, c'est vraiment, vous savez, des requêtes que tapent la grande majorité des gens lorsqu'ils vont sur Internet. Donc, c'est globalement des choses qui sont d'ailleurs connues, en fait, des outils comme SEMrush ou Ahref. Donc, ces mots-clés-là sont connus et on arrive à les quantifier. Et en fait, vous avez aussi, d'ailleurs, une très grande majorité en fait des mots-clés qui appartiennent en fait aux mots-clés de longue traîne. Donc c'est en fait des mots-clés dont leur fréquence en fait d'utilisation est tellement faible que même Google en fait a du mal à quantifier en fait leur utilisation. Et pourtant il s'agit en fait pris en fait dans leur grande masse en fait il s'agit d'une quantité assez importante de recherches en fait qui sont faites assez régulièrement. Et en fait ces mots-clés-là vous aurez du mal en fait à y accéder en fait via des outils donc SEMrush ou Ahref. En revanche, Google peut les fournir à travers donc, la Google Search Console. Et c'est aujourd'hui, en fait, et ça reste d'ailleurs toujours le cas, ça reste en tout cas l'outil peut-être le plus pertinent en ce qui concerne vraiment l'étude des mots-clés, ou en tout cas l'analyse en fait, des mots-clés qu'utilisent les utilisateurs pour arriver sur votre site Internet. Cela étant, il est évidemment important aussi d'utiliser des outils comme SEMrush ou Ahref ou d'autres pour identifier en fait, les mots-clés sur lesquels un site internet souhaite se positionner. Puisqu'en fait, l'analyse en fait, des mots-clés correspondant ou non aux produits, aux services ou au contenu que souhaite on dire, vendre en fait, un site internet, eh bien, cette correspondance en fait, est nécessaire à faire de façon à ce que le site puisse publier des contenus pertinents par rapport à l'utilisateur et que Google donc, placera dans les résultats de recherche.
Complètement, je te rejoins sur la question de Google Search Console. C'est un outil qui est extrêmement riche en data et surtout avec les évolutions, les mises à jour que Google peut apporter à Search Console, ça permet vraiment d'avoir une très bonne idée de quels mots-clés les internautes vont chercher, vont taper dans Google et que vous pouvez en fait utiliser dans vos contenus afin que votre référencement naturel prenne un boost et soit de plus en plus optimisé hein, finalement pour que la plupart des internautes puissent vous trouver en formulant leurs différentes requêtes.
Exactement. En fait, ce qui est vraiment important, c'est de bien prendre en compte en fait, les évolutions en fait, des tendances de recherche et d'adresser le contenu qui correspond en fait, à ces tendances de recherche, puisque Google est vraiment dans une logique de positionner les meilleurs résultats que possible. Et par défaut, en fait, il va évidemment alors, se baser sur d'autres critères, mais le contenu est vraiment, pour lui, vraiment le critère numéro un. Et ça, aujourd'hui, malheureusement, malheureusement, c'est simplement la limite des choses, mais beaucoup d'outils en fait, permettent justement donc, d'établir un certain nombre de recherches, d'identifier en fait, des volumes de recherche donc, associés à des mots-clés. Mais parfois, en fait, il peut y avoir des tendances qui peuvent être parfois assez fulgurantes et très soudaines, qui, même si en tout cas il y a un nombre de gens en fait, qui peuvent taper ces requêtes-là, eh bien, les outils peuvent être dépourvus d'informations sur ces requêtes-là. J'ai notamment en fait, cet exemple que j'avais eu il y a quelques années avec l'éclatement donc, de la crise du Covid, où beaucoup de sites internet en fait, souhaitaient, bah, je pense, se rendre visibles sur des requêtes utilisateurs bah, contenant cette mention du Covid. Cela étant, et malheureusement, les outils en fait, que classiques et ces branches Ahrefs n'avaient pas d'informations à donner concernant, je pense, ces mots-clés contenant la mention Covid. Et en fait, il fallait passer par la Search Console pour connaître véritablement en fait, la volumétrie de ces nouvelles requêtes qui étaient tapées par les utilisateurs. Et c'est seulement au bout d'un certain temps, donc au bout de plusieurs mois, que les outils ont commencé à intégrer ces nouveaux schémas de recherche et à donner en fait, des estimations de volumétrie en rapport avec ces mots-clés. Mais en tout cas, pour pouvoir être plus proche de la réalité, pour être capable d'être suffisamment flexible pour adresser à des contenus les plus pertinents, il faut se baser effectivement sur les outils officiels de Google.
Complètement. Et parlant d'outils officiels Google, souvent dans le grand public, pour les chefs d'entreprise qui sont moins techos, qui ne connaissent pas forcément Google Search Console, ils me parlent souvent de Google Trends. Et qu'est-ce que tu en penses? Comment toi tu l'utiliserais? Comment tu le conseillerais cet outil?
Alors, c'est un très bon outil. Seul inconvénient, je dirais, c'est que on va dire, la précision des données que donne l'outil est parfois assez manque parfois en fait un peu de précision. Enfin, on a du mal en fait à connaître vraiment la volumétrie
C'est moins
exacte
fiable,
de la
quoi.
recherche. C'est moins fiable, voilà, c'est ça dans la précision de la donnée, mais en tout cas dans les grandes tendances, c'est un très bon indicateur puisqu'on arrive comme ça à voir rapidement, eh bien, et très facilement d'ailleurs, c'est surtout ça aussi la raison de son succès, c'est que c'est un outil qui est très intuitif. On a tout de suite accès à des courbes, à des KPI, à des métriques qui parlent en fait, qui font sens. Et
Oui.
voilà, on arrive à obtenir rapidement, enfin, en tout cas, un indice vraiment en tout cas d'informations sur des tendances de recherche. Mais effectivement, si par exemple une personne en fait est consciente du fait que le site internet sur lequel elle travaille a des bonnes positions, a de très bonnes volumétries de recherche sur son site à travers son contenu, eh bien, il aura accès en fait à une précision de données beaucoup plus importante que Google Trends. Et donc, c'est important effectivement de parfois se plonger en fait dans la Search Console et d'aller voir directement bah, les impressions, les clics que génère le site sur une thématique en particulier.
Après, par exemple, de mon expérience avec Google Trends, ce que j'aime bien faire, c'est si jamais j'hésite entre deux mots-clés, d'utiliser cet outil, voilà, pour un peu comparer et voir qu'est-ce qui est plus recherché dans telle ou telle région ou tel pays, vu que je travaille à l'international. Et c'est vrai que c'est quand même, je trouve, un bon outil, voilà, comme tu disais, pour avoir les grandes tendances. Après, il faut prendre les datas présentées un peu avec des pincettes.
C'est ça, il faut toujours garder un certain recul sur les informations qu'on obtient. Et je dirais qu'en complément de cette technique justement qui consiste à voir un petit peu bah, qu'est-ce qu'on obtient en fait en tapant ces requêtes-là, il faut à mon avis aussi bah, tout simplement aller sur Google et taper en fait la requête dans la langue des personnes qu'on souhaite viser justement dans ces pays-là, enfin en règle générale que ce soit en France ou ailleurs d'ailleurs. Mais vraiment voir en fait qu'est-ce que Google remonte en termes de résultats de recherche selon la façon dont on oriente, on tape en fait comme requête dans son moteur de recherche. Et là en fait, ce qui peut se passer, c'est que les résultats de recherche ne sont pas du tout les mêmes selon les éléments que l'on a introduits dans la requête ou la façon dont on les a écrites. Et à ce moment-là, en fait, eh bien, le résultat peut être différent du tout au tout. Et donc c'est important effectivement d'être assez rigoureux sur les termes en fait qu'on utilise puisque du point de vue peut-être subjectif de la personne qui tape cette requête-là, il n'y aura pas de grosse différence fondamentale. Mais Google, lui, s'appuie vraiment sur son expérience de moteur de recherche depuis maintenant plus de 25 ans. et va tout simplement mieux savoir parfois ce que l'utilisateur pense lui-même, en tout cas à ce qu'il pense obtenir. Et donc c'est important tout simplement de se fier parfois à ce que Google donne comme résultat de recherche pour comprendre en fait quelle est la nature de contenu et donc des mots-clés qu'il faudrait adresser pour pouvoir chercher les personnes qui tapent cette typologie de requête.
Est-ce que tu aurais un dernier conseil à apporter à notre audience?
Oui, peut-être deux, je dirais même. Tout simplement, bien connaître en fait la cible, bien connaître les besoins, bien connaître la qualité en fait d'information qu'attend un utilisateur. Comment justement adresser en fait ce besoin-là, quel contenu produire et comment le mettre en avant via son standard pour justement maximiser la visibilité. Et donc ça, c'est vraiment en fait ce qui évidemment il y a toute la dimension technique dont il faut prendre en compte, mais la dimension sémantique est absolument fondamentale et que Google, dans tous les cas, va préférer vraiment un standard qui donne l'information plutôt qu'un qui est joli mais qui ne donne aucune plus-value en fait à l'utilisateur.
Merci beaucoup, Paul, pour tous ces conseils et je te dis à très bientôt dans un prochain épisode.
Avec plaisir, Véronique.
Vous avez aimé cet épisode? N'hésitez pas à aller écouter les autres de la série Let's Talk SEO.